Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Voilà, c'est Ramadan & Co sur Beurre FM. On a dit qu'on était là 30 jours, je me demande si ça va pas faire 29, hein, imam Abdelali.
Je sais pas, est-ce que si on parle du dernier jour, le 1er mai, le jour de la fête du travail sera le dernier jour du Ramadan, dimanche.
Vous annoncez l'Aïd le
2. Oh, c'est sûr.
Vous annoncez l'Aïd le 2.
Mais oui,
vous êtes
Philippe,
tranquille.
La position de l'astre lunaire à l'horizon au moment du coucher du soleil est favorable à une grande fête de l'Aïd le lundi 2 mai, Inch'Allah.
Et tant que le Ramadan s'arrête, hein, parce que je suis même un peu fatigué quand même. Ouais,
mais bon,
qu'est-ce qu'il y a, dites-moi.
Voilà, je disais que le doute reste. Persiste.
Oui.
On garde le charme du doute.
Mais vous êtes plutôt de.
Voilà,
de,
ceux qui veulent.
De l'équipe
qui veulent,
du 2.
Voilà, ceux qui veulent, par exemple, prendre une journée de congé, qui veulent s'organiser, les associations qui ont besoin de réserver des salles, les gymnases et tout ça, donc ils ont besoin de préciser auprès des autorités pour pouvoir réserver. Donc la plupart ont prévu la chose le 2 mai, le lundi 2 mai, Inch'Allah ta'ala. Les enfants seront en vacances, c'est parfait, alhamdoulillah. Mmh. Voilà, tout va bien.
Au bureau, il y avait une vague de congés le 2 mai aujourd'hui. Je sais pas, ça a dû circuler l'information que c'était le 2 parce que tout le monde posait son jour là.
Eh ben c'est bien, tant mieux. Ben, tant mieux. Tant qu'ils font dans les règles de l'art, il y a pas de difficulté. C'est très bien.
Bien, imam Abdelali.
De fêter l'Aïd.
Karima Chadibaou est avec nous aujourd'hui.
Bonjour Philippe, bonjour cher imam, bonjour à nos auditeurs et auditrices.
On dit pas bon matin.
Pas bon matin, bah là c'est bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Messam Khair, bonne soirée.
On attend Cheikh Youssouf Al-Hachmé, oui. Il est l'imam de la mosquée de Gonesse et président de Janaza France.
Non, la mosquée de Gonesse, je suis de Gonesse moi.
Non. Bah, écoute, tu vas avoir l'imam tout à l'heure.
C'est incroyable.
Il ne devrait pas tarder à arriver. Inch'Allah, on l'attend avec beaucoup d'impatience.
Mais vous avez dit à votre mari qu'il était à la radio.
Il ne va pas arriver en retard.
Bon, on va parler de la charge mentale des femmes pendant le mois du Ramadan, un sujet que nous a demandé une auditrice. Mais nous démarrons cette émission avec le professeur Raouti Rezali qui est parti enquêter sur le sens des mots.
Beurre FM, les grandes signatures du Ramadan. En quête de sens, professeur Raouti Rezali.
Al-Ihsan, traduit par l'excellence, sous-entendu celui qui fait des hasanats, donc celui qui remplit son compte de bons points ou de bonnes actions ou de hasanats. Alors c'est souvent traduit comme ça, par l'excellence ou la question de hasanats. Et lorsqu'on enquête un petit peu sur l'étymologie de al-hasanat, donc de la racine hasana, ou bien de al-ihsan, qui vient aussi de la même racine, on se rencontre deux notions qui sont très importantes. La première notion que renferme la racine hasana, c'est la notion du beau. Et ici, il faut comprendre le beau dans le sens de l'harmonie, dans le sens de chaque chose à sa juste place, dans sa juste mesure, au bon moment, au bon endroit. Ça, c'est le premier sens de hasan. Donc un acte qui est hasanique, je le dirais comme ça, c'est un acte qui est au bon moment, fait par la bonne personne, avec la bonne mesure, au bon endroit. Et ça nous renvoie à la deuxième notion, au-delà du beau et de l'harmonie, c'est la notion de conformité, al-hasan. Donc le bon, dans le sens de conforme à la volonté divine, conforme au plan divin, conforme à la vertu, conforme à la morale. Donc toute chose en réalité qui va faire en sorte d'être à l'image d'eux. Donc al-hasanat, c'est toute action par laquelle celui qui met en œuvre cette action se conforme à la volonté divine, et en réalité on pourrait aller plus loin, se fait à l'image du divin. Et on a cette tradition prophétique ou bien tradition spirituelle qu'on retrouve dans toutes les saintes écritures, le fait que Dieu a créé Adam, c'est-à-dire nous, à son image. Et en fait, faire des hasanat, c'est se conduire, avoir un comportement qui nous permet effectivement d'être à l'image du divin. Donc ça nous renvoie aux noms propres fonctions du divin, ce qu'on appelle les noms du divin. Walillahi al-asma al-husna. Al-asma, donc les noms fonctions. Husna, donc c'est la même racine. C'est ceux qui sont beaux, ceux qui participent à la ce que j'appelle moi la figure de perfection divine. Et ils sont bons dans le sens, ils sont conformes à la réalité divine. Donc faire des hasanat ou être un muhsin, c'est-à-dire faire acte de ihsan, ce n'est pas faire des bonnes actions. Ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. C'est pas faire le bien. D'ailleurs, je rappelle que dans le Coran, le bien n'existe pas. Par contre, al-muhsin, ou faire acte de ihsan, c'est saisir toutes les opportunités qui se présentent dans notre chemin afin de nous faire à l'image du divin, afin finalement d'incarner, de personnifier tous les attributs de perfection divine.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. L'appli Beurre FM. Beurre FM. Le Ramadan, 30 jours avec vous.
30 jours avec vous. Non, là, juste une petite cuillère comme ça.
Voilà, Imam Abdel a dit quand c'est rouge, c'est qu'on est à l'antenne. Ah, oui. Vous verrez quand vous ferez de la radio.
Il faut qu'on voit si mon tagine que j'ai fait aujourd'hui, hein, parce que j'ai fait un bon tagine marocain avec zit l'oud, comme ils disent les Marocains.
Zit l'oud.
Zit l'oud, ça veut dire zit zitoun, hein, ça veut dire l'huile d'olive.
Zit voilà. L'beldia.
Zit l'beldia, voilà. Et les olives.
Vous avez le chef Nabil Enzem qui est là. Et je suis sûr qu'il va vous piquer, il va vous piquer votre recette.
Alors attendez, parce que autant je cuisine maintenant depuis tout jeune et voilà. Ouais. Autant je fais souvent de la gastronomie française et je suis pas spécialisé. Ben, je fais de la cuisine, mais j'aime bien la manger chez ma mère, la gastronomie orientale. Mais
d'accord.
Du coup, je pense que notre imam a fait un meilleur tagine que je ne serais capable de faire.
Je sais pas, faut goûter d'abord.
Ah, ouais, faut
rester avec nous, Inch'Allah.
Malheureusement,
on va lui faire un bague.
Voilà.
On va lui faire un bague pour qu'il
repasse.
On va parler, Karima, de la charge mentale des femmes pendant ce mois de Ramadan. On a
déjà des sacs à dos, on a des valises, on vient avec les sacs pleins de nourriture. En plus, il faut charger la tête.
Elle est déjà chargée, c'est elle pas qu'il faut chargée. La charger, elle est déjà chargée. Donc on va apprendre à la décharger, surtout dans cette période de ce mois béni.
Alors c'est quoi cette histoire de charge mentale?
Alors la charge mentale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est...
Déjà, c'est la mode de parler comme ça.
C'est
nouveau vocabulaire.
Alors, ça fait un moment quand même qu'on en parle. Hein. C'est en fait le fait d'avoir énormément de choses en fait dans la tête, beaucoup de choses, les devoirs, on va dire ça comme ça, les devoirs, le rangement, la vaisselle, et surtout là en ce moment avec le mois de Ramadan, donc le jeûne, préparer le ftour, préparer la rupture du jeûne. Donc c'est tout ce que, en fait, dès qu'elle se lève, en fait, et généralement c'est les femmes, c'est surtout une problématique entre guillemets
donc
de femmes.
Donc c'est un emploi du temps officieux, surchargé, qui se trouve dans la tête de la femme, de la mère au foyer.
Exactement.
Qui est aussi peut-être même une femme qui travaille.
Absolument.
Voilà, et qui cumule tout ça et ça devient une surcharge mentale.
Exactement, une surcharge mentale. Pourquoi? Parce qu'elle est débordée, en fait. Elle est débordée par tout ce qu'elle a à faire, et comme elle ne se décharge pas, donc c'est des choses qui restent. Par exemple, les rendez-vous, vous savez, quand on écrit les rendez-vous chez le médecin, sur le réfrigérateur, chez le dentiste, de chaque enfant.
Que même moi aussi, je le fais, ça. J'ai pas besoin d'être une femme pour le...
Non mais,
c'est bien. Donc ça veut dire que vous êtes des madames.
On parlera de vous après.
Mais je veux dire, même, il y a beaucoup d'hommes comme moi qui font ce... Voilà. Qui se mettent tout leur emploi du temps.
Oui, impossible. Mais c'est pour aider.
Ils enregistrent leur emploi du temps.
Exact. C'est pour ça que les agendas sont faits, pour planifier. D'ailleurs, c'est un des outils qui va nous aider justement à décharger. D'accord, d'avoir une planification en fait de tout ce qu'on a à faire. Mais généralement, d'accord, la to-do list, la liste de tout ce qu'on a à faire, on la pose pas. Souvent, on garde tout ça en tête, on se dit c'est bon, je ferai ça après, et donc dans la tête, c'est déjà organisé, et c'est des choses en fait qui vont rester et surcharger notre pensée, surcharger nos actions aussi. Ça veut dire, par exemple, ça peut être que vous l'avez observé, cher imam, chez votre épouse, peut-être ou pas, je sais pas. C'est quand le matin elle se lève, la personne se lève, et donc elle voit tout ce qu'elle a à faire. Emmener les enfants à l'école, après l'école je vais rentrer, je vais faire tourner une machine, avant de faire tourner la machine je vais charger le lave-vaisselle, après avoir chargé le lave-vaisselle je vais m'occuper je dois parler avec la CPE parce qu'il y a un problème avec la cantine, je vais, et donc ça c'est que les trois premières minutes. Et donc comme elle ne décharge pas, elle garde tout ça en tête, et à la fin de la journée ça crée, en fait, et même avant même la fin de la journée, ça crée une surcharge aussi émotionnelle.
Alors, déjà,
et donc
pour
un épuisement.
Moi, je conseille la sunna du prophète, c'est de ne jamais laisser le lavabo le soir avec la vaisselle dedans.
Oui.
Il faut faire sa vaisselle le soir, laisser une cuisine propre avant d'aller dormir.
Oui, mais
c'est
quand la cuisine propre, on a...
C'est très déconseillé par le prophète lui-même. Hein,
de laisser la vaisselle sale
le soir.
C'est très bien, mais souvent, beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes ne savent pas, en fait, le faire. Pourquoi? Il y a eu la rupture du jeûne, donc on a préparé le ftor. On a fait en sorte de penser au goût de chacun. Lui, il aime ça, elle aime ça, lui, il veut cette chehiwa, elle veut cette chehiwa. Excusez-moi, je vais dire des mots en arabe, c'est pas assez ok, hein.
Non, si vous traduisez derrière, c'est
voilà.
Bien.
Voilà, chehiwa, c'est-à-dire des envies. Voilà. Nous, les Marocains, on dit ça comme ça. Voilà, et donc des petites envies, et donc elle veut faire plaisir à tout le monde. Et le problème dans la surcharge mentale, c'est en voulant faire plaisir à tout le monde, je ne me fais pas plaisir à moi. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'oublie, la personne s'oublie elle-même. Et elle commence à être, en fait, dans ce manque de reconnaissance, surtout que les enfants viennent mettre les pieds sous la table, et le compagnon peut-être aussi, et donc ne pense pas à tout le temps qui a été investi pour préparer ce magnifique ftor, d'avoir pensé à chacun ce qu'il aime, ce qu'il apprécie, des œufs à cette cuisson-là. Donc vous imaginez, en fait, c'est la femme, on l'appelle aussi la femme hélicoptère.
Pourquoi wow, elle est hélicoptère, femme hélicoptère.
Ouais, la femme hélicoptère et la femme poulpe. La femme hélicoptère, elle est là, elle tourne en fait comme l'hélicoptère tout autour de vous.
Girouette.
Ok, voilà, elle tourne. Et la femme poulpe, ça veut dire c'est celle qui a plusieurs bras.
Ouais.
D'accord. Et donc le problème, c'est comme les femmes sont multitâches et qu'elles, ça ne demande pas beaucoup d'efforts en fait de pouvoir être sur plusieurs plans, plusieurs écrans comme là, on est à la radio. Maître Bouali, il a plusieurs écrans qu'il surveille devant lui, n'est-ce pas ? Donc il gère plusieurs écrans.
C'est en train de dire que Maître Bouali est multitâche.
Il a une surcharge mentale.
Et donc il peut avoir une surcharge. Oui, il peut avoir une surcharge
ça
mentale.
Chauffe, là.
Quand on ne gère pas les choses,
on est
et surtout.
On a deux extincteurs là.
Quand on ne va pas au bout des choses, d'accord, et qui crée justement après un épuisement émotionnel.
Ouais. Sans parler de celles qui travaillent, donc qui, après le repas, débarrassent, nettoient.
Voilà. On aimerait bien que l'évier soit vide.
Passe la serpillière parce que le lendemain matin, elle travaille.
Mais Philippe, vous savez que moi, je le fais ça aussi. C'est-à-dire, je vais cuisiner, mais vous savez qu'après, quand je vais débarrasser, je m'en sers. Je me dis dans ma tête, ça va me faire digérer. Je me dis que ça me permet de pas rester inactif. Parce que quand on mange, on se sent lourd. Donc, je prends ça comme une force. Je me dis finalement, je vais être le moins paresseux possible.
Mais ça, c'est
et je vais être dans l'activité. Voilà. Je me le transforme, en tout cas, dans ma tête, psychologiquement. Je me dis ça.
Donc ça veut dire que ce qui peut devenir une surcharge mentale, vous le transformez.
Voilà, tout est dans la tête.
Tout est dans exactement.
Voilà, ça veut dire c'est comment on peut voir les choses. Il y en a qui travaillaient dans les emplois difficiles, hein, ouais. des bras, ils appelaient ça un entraînement sportif pour eux. Ouais. Ça dépend comment visuellement on le voit. Moi j'ai pris le voilà, mais je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Hein, mais
non,
mais
cas, c'est moi, ça marche. C'est très bien.
Ouais.
Mais par contre, certaines personnes qui n'ont pas cette capacité, ou en tout cas qui n'ont pas cette agilité de l'esprit, de transformer ça, elles vont dire oh là là, purée, j'ai encore la vaisselle, et j'ai mon tarawih à faire, j'ai la prière.
Et qu'est-ce qu'on mange demain ?
Et qu'est-ce que
je fais à manger demain ?
Parce que c'est 30 jours.
Les commissions, vous avez oublié les commissions.
Les courses.
Il y a les commissions. Il y a aussi peut-être même des problèmes administratifs, bancaires. Il y a tout plein de choses à gérer. Puis aussi le mari, hein. Le mari aussi qui vient avec tous ces trucs.
Non, ou alors qu'il va
dire ma chérie, il faut faire ci, voilà. Ma chérie, il faut faire ça.
Ou alors il va lui dire mais pourquoi t'as pas demandé quand elle s'effondre.
Il dit même pas ma chérie.
Oui, et que quand elle s'effondre et qu'elle est fatiguée et qu'elle dit moi j'en peux plus, il va dire mais pourquoi t'as pas demandé ? T'aurais dû nous demander de l'aide.
Ouais, j'étais
mais chérie, pourquoi tu te mets dans ces états-là ?
Voilà.
Ah oui, parce que la plupart du temps,
de toute façon, tu veux pas qu'on t'aide.
Ouais.
C'est sa faute.
Et ben de toute façon, ça sert à rien que je vous demande de l'aide parce que de toute façon, vous allez pas le faire correctement. Ça c'est ma réponse. Ça c'est ce que je dis moi à mes enfants quand ils disent mais maman, je dis stop, je fais ce que je peux. D'accord ?
Voilà.
Maintenant, vous voulez quelque chose, vous avez deux jambes, vous vous levez et vous les faites fonctionner.
Non, mais...
Voilà, j'ai eu la même journée que vous dans les jambes.
Mais c'est vrai que pour encourager ceux qui effectivement s'occupent de la cuisine et tout ça, ce qu'on peut leur dire pour leur donner un petit message de soutien, c'est que c'est vous qui êtes dans le bien parce que ça vous permet de pas rester oisif, paresseux après manger, on se sent lourd, badigeonné. C'est là qu'on grossit aussi quand on a mangé super vite. Et ben dites-vous que l'activité de tout de suite lever, de faire un petit peu le rangement, ça sera tout à votre honneur et ça sera bénéfique pour votre santé. Le travail, c'est la santé, on le dit
pas.
Là, c'est jamais plus vrai que maintenant.
Et juste avant d'aller prier Tarawih, donc les prières surérogatoires, c'est aussi une manière aussi de se dire, j'ai rangé ma cuisine, tout est ok, et je suis pas dans ma prière en train de penser à mon évier qui déborde, au suhoor. Ah, on n'a pas parlé du suhoor.
Ouais.
On n'a pas parlé du suhoor.
Et puis, mais il y a aussi les enfants qui font pas le ramadan. Il faut leur faire à leur petit-déj, leur déjeuner, comme si que c'était pas Ramadan, en
exactement.
Plus du ftour et du suhoor.
Exactement. Et le suhoor,
on fait pas beaucoup de repas dans la journée.
Vous avez une maison à deux étages comme moi, donc tu montes, réveiller l'un, réveille-toi, Zakaria, un autre, tu descends les escaliers, va réveiller quel autre dans l'autre chambre, et tu fais le tour, ça y est, c'est déjà arrivé, t'as même pas eu le temps de boire ton verre d'eau. Charge mentale aussi.
C'est pour ça qu'il faut s'y prendre tôt. Là maintenant, c'est 4h30 maintenant pour bien prendre un suhoor.
Acceptable et qu'il soit bien copieux. Bien régénérant.
Oui, mais la réponse, c'est mais nos mères y arrivaient et elles le faisaient très bien.
Oui, oui, c'est vrai.
Et en plus, c'était bon.
Oui.
Ils avaient la baraka dans la force et l'énergie.
Mais c'est vrai que maintenant, les femmes travaillent en plus à côté. Surtout en France, c'est qu'on a des femmes qui travaillent aussi, qui font double charge.
Et nos mamans, elles travaillaient pas, elles.
C'était un peu moins vrai. Voilà, effectivement, ça travaille un petit peu moins du côté des mamans. Et ça rend d'autant plus de mérite aux femmes, aujourd'hui, qui font deux boulots et en plus celui de maison. C'est incroyable. C'est un grand salut.
Et nos mères.
Moi, je conseille pas je pense qu'il faut avoir une femme cultivée dans sa vie. Mais si on veut avoir une femme qui vraiment fasse son travail comme il faut, et que toi tu fasses aussi ton travail correctement, cumuler le travail comme ça, c'est trop. Moi, pour moi, c'est limite humiliant pour la femme de lui imposer autant de choses. Hein, sauf si on lui donne un coup de main, quoi. Si on s'associe avec elle dans les tâches ménagères. Mais souvent, les hommes disent non. Moi, j'arrive à la maison, c'est les pieds sur la table et je m'affale sur le canapé. El grimbo gaide à la gambo, kegolo. Voilà, c'est ça. Et puis la femme, c'est elle qui va au fourneau, etc. Alors qu'elle, elle a autant travaillé que son mari. C'est ça qui est désolant.
C'est les doubles journées. Hein. Les journées commencent en même temps, mais elles ne se terminent pas en même temps, en fait.
Ouais. Et après, c'est pourquoi tu es nerveuse, pourquoi tu as les nerfs à fleur de peau, et pourquoi tu es fatiguée.
20h54, l'ADN en direct par The Voice of the Ramadan, l'imam Abdelali Mamoun. C'est Ramadan & Co sur Beurre FM.
Ramadan & Co revient dans un instant. FM, 19h-21h, Ramadan & Co, avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, et on a trouvé un surnom à Youssef Hachmaoui qui vient de nous rejoindre, imam enseignant, imam à la mosquée de Garges-lès-Gonesse, rugby-mam.
Rugby-mam.
Oui,
parce qu'il a,
il a le
on va dire là.
C'est un bon numéro 3.
Voilà, un bon numéro 3. Ça serait comment? On appellerait ça comment?
Un pilier.
Un pilier. Oh la vache. Pilier. Un pilier d'islam et un pilier de.
On a chef, chef Nabil, c'est le talonneur, le talonnier, et on a le pilier là.
Allahoumabarak. Et bah dis donc, on a toute l'équipe. Et moi, ça serait quoi?
C'était ma question. Au bar. C'était ma question. À la buvette. Avec Maître Boily en train de compter les ardoises. Bien, tous les soirs, nous avons Mustapha Chérif qui est avec nous pour sa chronique, le Ramadan des rappels.
Bonsoir. La religion se veut reconnaissance. Jeûner, c'est être reconnaissant. C'est cela le secret intérieur, puisque Dieu dit « le jeûne m'appartient ». À quoi sert-il de vivre si on n'est pas reconnaissant? À quoi sert-il de se dire croyant si on n'est pas reconnaissant? Croire, c'est rendre grâce. D'où que le premier mot du Coran est « hamd », louange. Avoir la foi, c'est être dans la louange et la reconnaissance. Il dit « shkuruni nazid lakum »« Remerciez-moi, j'augmenterai vos bienfaits ». Adorer, c'est remercier. D'où que c'est la notion la plus usitée dans le Coran après le salam, la paix et le dhikr, le shukr et le hamd. Le musulman remercie le Seigneur en toutes circonstances, avant l'exaucement des vœux, pendant les épreuves et après. Alhamd fi kulli hal. Abraham, père des croyants, disait la'allahum yashkurun, espérant. Peut-être seront-ils reconnaissants. Il faisait le vœu pour tous ses descendants, c'est-à-dire tous les croyants dont nous faisons partie, être reconnaissants. Le prophète priait toutes les nuits durant le jeûne du Ramadan, les deux tiers de la nuit au moins, et son épouse, une de ses épouses, lui dit « Pourquoi tant d'épreuves, tant de souffrances pour toute la nuit prier ?» Et que lui répondit-il ? Alam akun abdan shakuran, ne serais-je pas un croyant reconnaissant? C'est la reconnaissance. Il ne s'agit pas de jeûner pour je ne sais quelle récompense, alors que la récompense, il y aura 10 fois plus que ce que nous espérons. Il s'agit aujourd'hui de montrer que nous sommes conscients qu'il faut honorer la vie, que la vie est un don, un miracle. Il faut le remercier en toutes circonstances. Croire, c'est être reconnaissant. Nier le sens de la vie spirituelle, c'est être ingrat. Alors jeûner, c'est bien montrer que nous nous élevons intérieurement et que nous maîtrisons notre condition humaine, nos désirs, nos besoins et nos passions par reconnaissance qu'il nous a donné. Cette vie éphémère est un trésor inestimable qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et en toute épreuve. C'est cela qui est attendu du croyant et du jeûneur. Ainsi, avoir la foi, c'est le remercier de ne pas être éprouvé encore plus que ce que nous sommes. Ce n'est pas être exemple d'épreuve. C'est vraiment montrer que nous voulons préserver notre religion et notre foi. Les compagnons du prophète, notamment Omar ibn Khattab, Omar, le deuxième calife, disait « Je le remercie que ma foi ne soit pas perturbée. Le remercier d'accepter notre repentir et de pardonner nos faiblesses. » C'est cela aussi la reconnaissance. Car quoi que nous fassions, nous ne serons pas à la hauteur du don et des bienfaits que nous pouvons énumérer, inébranlables, infinis, qui nous a donnés. Reconnaissant, c'est l'univers entier qui est reconnaissant et qui loue et qui remercie Dieu de manière libre ou contrainte. Et c'est à nous d'être en phase avec ce monde qui remercie Dieu en toutes circonstances. Dire « je suis croyant », c'est témoigner de sa reconnaissance. Partager avec l'autre ce que nous recevons, c'est être reconnaissant. C'est tous nos actes, toutes les circonstances, en toutes circonstances, qui doivent faire montre, épreuve et démonstration de reconnaissance. C'est cela qui est essentiel dans le jeûne, parce que c'est intérieurement que nous exprimons notre reconnaissance. C'est dans la maîtrise de tout ce qui s'offre à nous qui montre notre souci de reconnaissance. Alors, si le premier mot du Coran est « Hamd, la louange », le dernier moment de notre vie doit aussi se terminer par cette dimension de la reconnaissance. Lorsqu'il y a rupture du jeûne, c'est la reconnaissance. Tout ce que nous voulons montrer comme partage et comme aide à autrui, c'est la reconnaissance. Être reconnaissant, comme le prophète nous l'a appris, comme le Coran nous le dicte, c'est montrer que le cœur est éveillé, car ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs.
Mustapha Chérif, tous les soirs du Ramadan sur Beurre FM et en direct. Karima.
Oui, c'est magnifique. Ah, je suis... J'ai même pris des notes. Je suis...
Beaucoup de réactions d'ailleurs à la chronique de Mustapha Chérif. Ouais. De la part des auditeurs tous les soirs qui vous suivent passionnément, Mustapha Chérif.
Merci, voilà. C'est vraiment le cœur qui essaye de traduire cette guidance qui nous est donnée. Nous avons le privilège d'être appelés à la reconnaissance et c'est cela qui fait que jamais un croyant sincère ne peut être ingrat tant vis-à-vis de ses parents, d'autrui, que de celui qui a créé la vie, car il faut honorer la vie avec cette voie de la guidance dont nous sommes privilégiés, car Dieu guide à sa lumière qui il veut. Et c'est cela, jeûner, c'est garder cette lumière, cette flamme vivante, et dépasser tout ce qui peut nous entraver, nous perturber, nous distraire.
Mashallah, docteur, Allah yahfadak. Dans le Coran, effectivement, Rabbil Alamin, il évoque cette reconnaissance en opposition justement à l'ingratitude, à la mécréance. Il dit, subhanahu wa ta'ala, en même temps en précisant que celui qui est reconnaissant, Dieu lui augmentera, lui ajoutera de ses bienfaits, le comblera de ses bienfaits. Il dit, la in shakartum, la azidannakum. Wa la in kafartum, il dit que si par contre vous êtes ingrat et. Inna adhab ila shadid. Mon châtiment sera dur, dit Dieu.
Et surtout, ces paroles, si vous me permettez, elles permettent aux croyants et à la croyante qui écoutent en fait ces paroles et comment vous les avez détaillées, vraiment une expansion du cœur et une ouverture du cœur. Et c'est ça qui est magnifique. Parce qu'on sent les vibrations du cœur à la louange, à la reconnaissance et au fait de se mettre dans cette mise en humilité aussi, de se mettre sous ces louanges et ce chant du cœur finalement, eh bien on se retrouve à être que le jeûne, on voudrait que le jeûne il soit perpétuel quoi. Merci beaucoup le professeur.
Dieu dans le Coran, il parle de ce parachèvement du mois comme étant une manière de manifester la walitukmilu l'aïd. Il dit parachever cette période et que vous chantiez la grandeur de Dieu pour vous avoir guidé et ainsi réaliserez-vous cette reconnaissance comme l'a dit le Cheikh Al-Ustad Al-Fadil Mustafa Sharif.
Quel grand honneur de vous avoir pendant tout ce mois de Ramadan, Mustafa Sharif, et on vous retrouve demain et toute la journée sur Beurre FM. À demain.
Merci, chers amis. Salut Philippe. Salut.
À bientôt. Au plaisir de te revoir, Cheikhna.
Alors, le standard est à votre disposition. Je vous rappelle que ce soir, on parle des femmes, celles grâce à qui le mois de Ramadan n'est pas tout à fait le même, puisque c'est elles qui, tous les soirs, nous nourrissent la plupart du temps. On parle de cette charge mentale. Mesdames, vous avez la parole. 01 53 48 3000.
Ramadan & Co. Reviens dans un instant. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Avec ce soir Karima Chedibaou qu'on retrouve tous les jours à 12h20 pour méditer sur Beurre FM.
Oui.
Un petit quart d'heure de méditation, ça fait du bien à l'heure du déjeuner, Karima.
Absolument.
Nous avons également sur ce plateau Youssef Hachmaoui qui est avec nous. Voilà, on l'a gardé. Il est avec nous pendant tout ce mois de Ramadan. Et ça
c'est
fait
la mascotte
très plaisir.
Du Ramadan 2022.
Voilà, exactement. On va le faire signer pour 2023.
Ouais, pourquoi
c'est le moment. Et puis le chef Nabil Mzen est avec nous, que vous retrouvez tous les jours avec Manuel Mariani à 18h. Chef Nabil, star des réseaux sociaux.
Ouais, en attendant que le Ramadan se termine bientôt. Alors, donc ça va être bientôt fini, là, la petite recette. Mais bon,
ça passe vite.
Ça passe super vite. Je me rappelle quand on a commencé.
Oui, exactement. Ouais, mais ça commençait avant le Ramadan aussi.
Ça avait commencé, c'est vrai. Je commence à être un habitué de la maison.
Voilà, pour, ça commence avant plaisir. Le Ramadan. Le Ramadan chez nous, ça dure 2 ou 3 mois en fait. Alors 01 53 48 3000, nous avons Aïcha qui est avec nous. Aïcha, bonsoir, bienvenue et bon Ramadan.
Oui, salam alaikum. Rahmatullah,
barakatuh.
Bonsoir. J'ai une petite question, mais avant de la poser, j'aimerais transmettre un petit message. Je voudrais vous dire vraiment sincèrement, barakallahu fiko, Allah yajazakum bil khair pour tout le bien que vous nous faites chaque soir, c'est Ramadan. Et franchement, je sais pas quoi dire de plus, et j'aimerais s'il vous plaît dire aussi avant de poser ma question. J'ai envie de dire aux jeunes, à toute génération confondue, allez voter, vous laissez pas faire comme ça et ne laissez pas d'autres décider à votre place. Parce que c'est quand même, j'ai envie de dire, horrible quand on voit qu'elle veut faire ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire, avec sa priorité nationale, empêcher les gens de rester dans leur logement, empêcher les gens de travailler. Donc voilà, selon ce qu'elle appelle, ce qu'elle nomme ça, quoi, sa priorité nationale, je trouve ça dommage que les jeunes ne soient pas plus mobilisés.
Alors, ceci étant dit, Aïcha, maintenant vous pouvez poser votre question.
Oui, je vais poser ma question, pardonnez-moi Philippe. Oui, oui. Voilà, je voulais savoir, quand on dit Jenna, c'est au pied des mamans, est-ce que vous pourriez expliciter s'il vous plaît ce hadith?
Alors, le hadith, c'est « Al-Jannatu tahta aqdami l'ummahat », même ce hadith-là, il est un peu faible, mais il y a d'autres versions qui vont un peu dans le même sens et qui, eux, sont authentiques. Où on interrogeait le prophète, d'un compagnon qui ne négligeait sa mère. Le prophète l'a dit « Va au pied de ta mère, car se trouve là-bas le paradis ». Il y a des hadiths qui vont dans le sens, en tout cas, qui renforcent l'idée que la bonté pieuse, la bienfaisance, la bienséance, tout simplement être au petit soin pour sa maman, surtout quand elle arrive à un certain âge et que toi, tu es devenu un homme puissant, que tu as tous les pouvoirs, peut-être même toutes les capacités, tu pourrais faire tout pour elle ou contre elle, et que tu choisis au contraire de faire preuve de reconnaissance, comme l'a dit Cheikh tout à l'heure Mustapha Sherif, à l'égard de Dieu bien sûr, mais aussi à l'égard de ta maman, eh bien effectivement c'est elle, ta maman, qui par ton comportement devient la porte ou ta porte du paradis, ou ta clé qui permet d'accéder au paradis bien entendu, hein, puisque Birr al-Walidain, la bonté pieuse à l'égard des parents et de la maman et du papa, eh bien est un, bien entendu, le deuxième commandement de Dieu après la foi en un Dieu unique, puisque Dieu dans le Coran il dit wa qada rabbuka, et Dieu a prescrit, ton Seigneur a prescrit, an la ta'budu illa iyyah, que vous n'adorerez quiconque si ce n'est lui, wabil, et tout de suite après, donc la première, donc deuxièmement il dit wa bil walidayni ihsana, et aux parents, à l'égard des parents, de la bonté pieuse, de la bienfaisance, de l'excellence dans le comportement, c'est ce qu'on appelle al ihsan ila al walidayn. Donc c'est bien entendu ta porte qui te permet d'accéder au paradis, avec bien sûr le tawhid, hein. La ilaha illallah est forcément incontournable, on peut pas se passer de cette foi en Allah Azza wa Jal, puisqu'il faut être à la fois reconnaissant envers Dieu, celui qui t'a créé, et être reconnaissant envers ta mère qui t'a conçu, qui t'a porté et qui a souffert pour toi pendant que tu étais dans son ventre, et après longtemps, et toute sa vie elle était soucieuse de ton bien-être. Donc quand tu arrives à un certain âge, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu sois reconnaissant. Et donc madame, réaliser cela, réalise tout simplement ton entrée au paradis. Elle est ta porte du paradis. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, c'est-à-dire qu'en même temps, ton humilité t'impose à te baisser jusqu'à ses pieds pour accéder au paradis. C'est une métaphore, c'est une manière de dire les choses, que voilà, c'est en te baissant, en t'humiliant devant elle, et en étant reconnaissant de tout ce qu'elle t'a fait pour toi, que les portes du paradis s'ouvriront pour toi, Inch'Allah.
Merci Aïcha pour votre question. Samia est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Samia.
Bonsoir, pardon.
Bon, bonsoir, c'est bien. Bonsoir. Il fait encore jour, on y va.
Oui, voilà, j'ai encore jour, oui. J'ai envie de poser une question pour... parce que moi, j'ai fait l'assurance de vie avec la poste.
Oui.
Mais j'ai envie de poser la question pour l'imam. Est-ce que quand j'ai, par exemple, je ne sais pas quel pays je vais mourir, on ne sait pas ça, mais je voudrais voir des questions, des réponses pour ça.
Chérieux, c'est toi dans l'index qui j'ai oublié de soir.
Parce que moi, je ne connais pas, ça fait longtemps que je ne suis pas, ça fait pas très longtemps que je suis ici en France, alors je ne sais pas comment.
Alors, il faut juste savoir une chose, c'est que tous les contrats obsèques aujourd'hui, alors voilà, les contrats obsèques, c'est ce qui est commercialisé par des pompes funèbres, via l'Orias, et les conventions obsèques, c'est ce qui est commercialisé par des banques, parce qu'ils n'ont pas le droit de vendre des contrats. Néanmoins, tous ces contrats-là sont ribawi. C'est pourquoi l'unanimité des savants frappe ce type de contrat de tahrim. Cela veut dire, étant donné qu'ils alimentent les comptes et alimentent la riba. Donc l'usure bancaire qui est strictement interdite en islam, comme l'énonce le Coran. Néanmoins, en plus aujourd'hui, nous avons des alternatives. Ça ne veut pas dire que les banques dites arabes ou musulmanes ont l'alternative aujourd'hui. Non, parce que même des banques qui ne sont pas européennes et qui sont issues de pays dits musulmans font ça. C'est aussi des... Alors, faut savoir que tous les contrats obsèques, ce sont des assurances vie. Ces 10 contrats obsèques, ce sont des assurances vie. Tous.
Voilà, c'est ça, oui.
Excepté.
Moi, je suis à la poste, alors je sais pas, parce que
oui,
c'est
oui.
La première fois. Alors, parce, je connais pas.
Parce ça qu'en fait, lorsque vous souscrivez, vous avez deux types de contrats. Vous avez ce qu'on appelle un contrat en prestation et un contrat en capital. Donc, vous cotisez, puis après, vous aurez plus tard, généralement, ouais, c'est voilà. 4 ans, vous avez un capital.
Voilà, c'est ça, oui.
Sauf que le capital, quand vous reversez, vous pouvez avoir des capitales de 4, 6, 8, 10 000 euros plafonnés. Ça reste de la riba parce que vous avez engager des fonds qui ont fructifié et qui ont accéléré et qui ont engendré de la riba,
des intérêts.
Donc voilà, aujourd'hui alhamdoulillah, il y a des alternatives, il y en a peu. Nous, on en a.
Alors,
on en vend aussi.
On en parlera demain, d'ailleurs, oui. Un Imam Abdelali, parce qu'on va faire une émission sur les crypto-monnaies, notamment, et c'est sur clair. Tout ce qui concerne la finance islamique.
Impec.
Sharia compliant.
Oui, voilà. Donc demain, vous pourrez éventuellement avoir réponse à cela. Mais sinon, aujourd'hui, il y a quand même des alternatives. Hein. Avec, chez beaucoup d'Africains, de Maghrébins, etc., ils ont des caisses de village, caisses de famille, etc. Ça échappe à la riba, alhamdoulilah.
C'est un nom, ça?
Comment ?
C'est un nom ?
Oui, par exemple, chez quelques communautés africaines, notamment, parce qu'on travaille beaucoup, avec des Sénégalais, Ivoiriens, Maliens, etc. Ils ont des caisses qu'ils appellent les tontines. Et sinon, bah, les caisses de village, c'est essentiellement chez les Berbères, qui sont très très bien coordonnés, notamment les Kabyles, donc les Berbères, et les Comoriens aussi. Les Comoriens ont des caisses de village qui sont très bien gérées, très bien coordonnées. Paye très peu.
On cotise tous les ans, c'est ça?
Vous cotisez généralement. Alors, ils ont des caisses, c'est selon un petit peu la population de la ville ou du village. Parce que plus vous êtes nombreux, plus vous payez très peu. Moi, je sais que les villages avec lesquels on travaille, quand ils sont peu, ils vont peut-être cotiser une cinquantaine d'euros à l'année. Je sais qu'il y a quelques villages comoriens avec qui on travaille, cotisent, payent à peu près 20 euros par an. Donc 20 euros, c'est vraiment dérisoire. Sachant que le rapatriement pour les Comores est extrêmement cher, c'est quasi le plus cher que nous avons en Europe. Donc il est bon quand même de cotiser dans ces caisses. Comme ça, au moins, la famille, lorsqu'elle sera frappée par un sinistre, n'aura pas un gros montant à
sortir d'un coup.
Tout à fait.
On continuera de vous répondre dans un instant. Samia, 01 53 48 3000, si vous avez des questions.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beur FM, 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà. Alors, on parlera demain hein, de toutes ces histoires d'argent, des crypto-monnaies. Cher Youssef, à quoi il faut faire attention sur les contrats? Parce que c'est vrai qu'on est très peu habitué à lire les contrats. Il y a des clauses, en général, très peu de gens les lisent. Qu'est-ce qu'il est important de lire comme clause?
C'est beaucoup de choses. Vous savez, des fois, les clauses dans ces contrats-là, c'est 2-3 pages en police 6, ouais, avec des dizaines et des dizaines de clauses. C'est toujours très, 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 très délicat. Aujourd'hui, à vrai dire, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des nouvelles solutions Takeful qui sont en train de naître, qui sont certifiées, alors qui sont certifiées sans riba, commencent à se développer. Il faut vraiment les encourager, y souscrire et y participer. Les gens qui les gèrent aussi, c'est des gens qui sont compétents et dignes, donc spécialisés aussi en finance islamique, etc. Et en plus, la cotisation est très faible. Je pense que pour un célibataire, voilà, quelqu'un qui est seul, la cotisation, je pense, commence, je crois que c'est 19 ou une vingtaine d'euros, on va dire. Et vous êtes couvert.
Par an,
tout à fait, oui.
Ah oui, après, par mois, oui.
Oui, après, si vous êtes deux, bah oui, bah, un contrat aujourd'hui en capital ou encore en prestation, dans les banques européennes connues, on est plutôt aux alentours de 300 euros par an pour prétendre à un capital de 4000 euros en prestation ou en capital. C'est très très cher. Et aujourd'hui, avec les solutions Takeful qui commencent à naître sur le marché, on en a chez les Turcs et autres, hein, et tout le monde peut y souscrire, c'est IMG et tout, on en a beaucoup, donc c'est des gros groupes. Quand je dis c'est des gros groupes, en fait, c'est beaucoup de gens qui cotisent. Et plus il y a de personnes qui cotisent, plus il y a d'argent. Ben, s'il y a des sinistres, ils peuvent
les couvrir, ouais.
Les couvrir, les absorber, etc. Et ce qui reste aujourd'hui dans ces contrats, pourquoi on sort-il aussi légaux, garantie 100%, il n'y a pas de riba, certifié 100% non riba. Et en quoi ça se distingue des autres contrats, c'est qu'en fin d'année, la règle est que l'argent restant, les reliquats, doit être reversé aux bénéficiaires. On peut pas conserver l'argent.
On garde pas dans les caisses.
On peut pas le conserver, tout à fait.
C'est une propriété qui reste collective.
Tout à fait.
C'est halal.
Ouais, tout
ça,
à fait.
C'est halal. C'est vraiment les sociétés d'assurance, eux, qui appartiennent à des actionnaires ou à des propriétaires, eux gardent l'argent.
Tout à fait.
Et il est là le problème.
C'est une caisse de solidarité. Après, il peut y avoir des options. Certains peuvent vous dire, par exemple, on conserve l'argent pour assurer, par exemple, les enfants de moins de 12 ans. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on ne peut pas faire souscrire à une famille ou à un enfant un contrat obsèque s'il a moins de 12 ans. C'est la règle. C'est la loi. Idem, des fois, il y a des... Alors, je sais que c'est discriminatoire, mais il est vrai pour les personnes âgées de plus de 76 ans, certains contrats, c'est 85, mais beaucoup de contrats aujourd'hui, c'est 76 ans, on ne veut plus les assurer. Donc, Beit El Mel et autres viennent souvent des fois avec les excédents alimenter ces comptes-là. Si nous avons des enfants en bas âge, et il y en a beaucoup, notamment les fausses couches, il y en a énormément les dernières années, et les personnes âgées qui ne sont pas couvertes, au moins cet argent, donc c'est vraiment une caisse tadamoun, une caisse de solidarité, de cohésion, peut absorber et peut couvrir les plus petits et les personnes âgées.
C'est un vrai bon sujet, ça. Hein. cher Youssef.
Non, mais ce qui me dégoûte, c'est que le gars, il paye. Mmh. Et paye. Après, il a 76 ans, il meurt. Et puis là, il n'est plus pris en charge. C'est, ouais. C'est quoi ce délire-là?
Ah, j'avais compris qu'il ne pouvait pas s'inscrire à partir de 76 ans.
En fait, c'est ça. Ouais. C'est que si jamais il a commencé à cotiser à l'âge de 65, 70 ans, ça va, il reste couvert. Mais il vient s'assurer aujourd'hui, il a 76 ans, on lui dit non. Et sachant que dans les contrats aujourd'hui, il y a toujours ce qu'on appelle un délai de carence pour s'assurer que la personne ne vient pas s'assurer si elle sait qu'elle est condamnée et qu'elle vit peut-être ses derniers mois ou ses dernières semaines. Il y a toujours un délai de carence pour ça.
C'est un sujet politique, cette question-là. Non, Philippe, parce qu'il paraît, ils en ont parlé.
Oui, alors tiens, on a Kamel Chekat qui est avec nous, Imam Abdelali, oui. Et je ne voudrais pas qu'on accueille Kamel Chekat en retard, chercheur en théologie, membre fondateur des Oulémas du Sahel, et vous savez, à 20h précise, sur Beurre FM pendant le mois du Ramadan, c'est Kamel Chekat qui est avec nous. Bonsoir Kamel.
Bonsoir à vous, salam alaykoum.
Je me rappelle quand j'étais jeune, à 20h précis, c'était Jean-Claude Bourret.
Non, c'est Kamel Chekat.
Kamel Chekat, maintenant.
Non, vous avez été petit il y a longtemps, hein, parce que Jean-Claude Bourret.
J'ai dit quand j'étais petit.
Spécialiste des martiens. Moi aussi, je me souviens de Jean-Claude Bourret.
C'est que le pire, c'est que moi, je l'ai bien connu, c'est pour vous dire.
Oui, j'ai une boîte de café aujourd'hui, je suis désolé. Alors, aujourd'hui, on passe à la quatrième grande règle de droit, parmi les cinq qui font consensus entre les différentes écoles de droit musulmanes. Cette règle nous dit « Al-yaqin ou la yazoul ou bishak ». La certitude ne peut être dissipée par le doute. Les choses, en fait, sont très simples. Hein. Vous êtes à la maison, vous vous levez, vous faites votre prière, et puis, juste après la prière, vous vous dites « Tiens, est-ce que j'ai fait mes ablutions ou pas ?» Tant que le doute ne persiste pas, vous partez sur la base de ce que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire vous faites vos ablutions, puis vous faites votre prière. Mais avant même de voir en quoi consiste cette règle, quel est son rapport avec les textes fondateurs, à savoir les versets coraniques et les hadiths authentiques du messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, il est bon de passer en revue le doute en lui-même ou les différentes catégories de doute telles que citées par les savants, les juristes musulmans. Alors il y a une première catégorie de doute dont on dit « shakku tari'u 'ala ma asluhu haram », c'est-à-dire le doute qui a un rapport avec ce qui est à la base péché ou illicite. Alors, quand on parle de l'illicite, par exemple, nous, dans nos pays, la viande, elle est certifiée halal. Quand bien même un boucher malhonnête n'égorgerait pas ses bêtes, ou bien il vous mettrait sur le présentoir une bête morte, ce que vous allez consommer est considéré comme halal.
Et précisons, bête morte, ça veut dire qu'il n'a pas été égorgé. Qui est morte.
Il n'a pas été égorgé.
Voilà,
oui.
Qui est morte comme ça.
Le Meïta.
Meïta.
Ce qu'on peut qualifier aussi de charogne. Donc, à la base, tout est licite. Donc, vous allez consommer sans aucun problème, sans aucune gêne. Et s'il y a quoi que ce soit d'illicite, c'est celui qui en est l'auteur qui va supporter le péché. Par contre, quand on est par exemple dans des pays européens, où les viandes ne sont, où les bêtes ne sont pas abattues selon le culte musulman, nous partons sur le principe que tout est illicite, sauf ce qui a été décrété licite. Là, le doute, il va porter sur quelque chose qui, à la base, est illicite, à savoir les viandes qui sont consommées. Il y a une deuxième catégorie de doute, qu'on appelle « shakku tari'u 'ala ma asluhu mubah », c'est-à-dire le doute qui va intervenir ou qui a un rapport avec ce qui est à la base licite. Là, nous pouvons prendre comme exemple ce fameux hadith du messager de Dieu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « al-ma'u tahirun la yunajjisuhu shay'. » L'eau est pure et rien ne peut la souiller. Nous parlons généralement des trois caractéristiques de l'eau, la couleur, l'odeur et le goût, bien sûr, qui ne sont pas altérés, donc l'eau est automatiquement bonne, aussi pure pour la prière que pour être consommée. Mais il faut savoir aussi que l'eau peut perdre certaines de ses caractéristiques du fait qu'elle ait été, on va dire, gardée dans un récipient qui pourrait éventuellement changer quelque peu le goût, ou bien si cette eau a changé quelque peu en fonction du milieu naturel dans lequel elle se trouve. Mmh. Nous partons sur le principe que cette eau est pure, c'est-à-dire qui peut servir pour le culte, c'est-à-dire les ablutions, et qui peut être utilisée aussi pour la consommation. Il y a un troisième type, une troisième catégorie de doute. Les savants nous parlent de ce qu'ils disent « shakotari u'ala ma la yu'arafu aslah », c'est-à-dire le doute qui va intervenir ou avoir un rapport avec ce dont on ne connaît pas, on va dire, l'origine. Est-ce qu'elle est licite ou illicite? Et là, la majorité des juristes vous donnent comme exemple, alors deux hommes s'associent, et l'un d'eux ne sait pas si son vis-à-vis, son associé, a des fonds, on va dire, bien acquis ou mal acquis. Tant qu'il n'y a pas de preuve irréfutable que l'associé en question jouit d'un bien mal acquis, ou utilise de l'argent, on va dire, sale, entre guillemets, cet argent et les gains engendrés par ces fonds sont considérés comme licites, et rien ne peut changer cela s'il n'y a pas une certitude ou des preuves avérées. Ceci donc pour revenir à cette règle qui dit l'yaqin la yazulu bishak, c'est-à-dire la certitude ne peut être dissipée par le doute. Voici donc en introduction de cette règle et nous développerons plus.
C'est ce qu'on appelle chez les Hanafites al-bina al-yaqin. Shukran.
On développera demain. Si vous voulez jouer au quiz du Ramadan, 01 53 48 3000, c'est maintenant que vous vous inscrivez, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, et ce soir avec nous, Karima Chadibaou qui est avec là tous les jours en midi avec Karima sur Beurre FM aux alentours de midi 20. Nous avons également l'imam Abdelali Mamoun qui est là et Youssef Hachmaoui. Dans un instant, Yassine Ilmi nous rejoindra pour le grand quiz du Ramadan. Mais Nadia est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir et bienvenue Nadia.
Oui, bonsoir. Alors j'ai une petite question à poser mais qui n'a rien à voir avec les assurances obsèques. Voilà, c'est une question.
On prend tout ce soir.
Ah d'accord, vous prenez tout, super.
Même les tickets restaurants.
Même les tickets restaurants.
Je n'en ai même pas à vous offrir, vous me mettez mal dans un jour de jeûne.
Agis.
Bon, allez-y. Alors, ma question. Notre religion islamique, c'est croire en un Dieu unique. C'est surtout le mot celui-là que vous retenez, unique. Mmh. Dieu nous a envoyé un seul livre, le Saint-Coran.
Non, il n'a pas envoyé qu'un seul livre. Non, il n'a pas envoyé qu'un seul livre.
Oui. J'ai compris les hadiths,
Non. Il y a aussi les livres qui ont été révélés à d'autres prophètes avant lui. C'est-à-dire l'évangile de Jésus, la Torah de Moïse.
Non, je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça. Bien entendu, la Bible, la Torah, je ne les oublie pas. Je parle de Saint-Coran, voilà, c'est le mot Saint-Coran.
Al-Karim, d'accord.
Voilà, le Coran al-Karim. Ma question est, c'est vrai que quand on a une incertitude, nous, on n'est pas des imams, on n'est pas des scientifiques à notre petite échelle, on va poser une question, comme à vous, par exemple, ce soir, et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on va nous dire l'école untel dit ça, ou l'école untel dit ça. Ma question est-ce que vous ne pensez pas que c'est une forme de division?
Oui, ouais. D'accord. Non, ben écoute, oui.
Madame,
quand vous prenez une autoroute, quand vous prenez un chemin ou une route pour aller vers une ville,
oui,
d'accord, cette route-là, est-ce que c'est une rail de train ou est-ce que c'est une autoroute avec plusieurs voies?
Ok, plusieurs voies.
Eh bien, l'islam, c'est pas une rail. C'est pas vous êtes sur un train, si ça déraille, vous êtes mort. L'islam, c'est une route, une autoroute même, avec une, deux, trois, quatre voies. Vous pouvez aller à vitesse plus ou moins importante. Vous pouvez avoir une voie qui va avoir des petits trous, donc ça va avoir des contraintes. D'autres qui vont être plus assainies, plus faciles à pratiquer qu'une autre. Mais en tout cas, dans tous les cas, ma sœur, on est bien d'accord que la route, là, que vous prenez, elles vont tous vers la même direction.
Voilà, on se rejoint. Voilà.
Donc finalement, il y a bien une seule route avec plusieurs voies.
Plusieurs voies, mais oui, mais dans les écoles Intel, c'est pas ça. Par exemple, moi j'ai déjà posé la question avec un imam, j'ai une école Intel qui dit ça et une école Intel qui dit l'opposé. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On choisit la case où on va. Je n'arrive pas à comprendre.
Alors, madame, c'est le mufti, madame. Nous, on considère que ce ikhtilaf, c'est ce qu'on appelle cette divergence qui existe, elle n'est pas ce qu'on appelle contre-productive, elle ne dessert pas l'intérêt des musulmans, mais au contraire, elle est utile, elle est une miséricorde pour la Oumma, dans le sens où le mufti, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a divergence entre les savants, si vous me permettez, laissez-moi parler quelques instants.
Oui, bien sûr.
Voilà. Il y a une divergence entre les savants sur celui qui répudie sa femme et qui répète trois fois. Est-ce que s'il a répudié trois fois, c'est irrévocable majeur, c'est-à-dire c'est fini, il peut plus se mettre avec elle, ou au contraire, c'est révocable, il peut se remettre avec elle et c'est considéré comme une cartouche gaspillée, il lui reste encore deux autres. Donc cette question-là, il y a divergence. Il y en a qui vont dire non, ça y est, c'est fini, il a répudié trois fois successivement, talqa talat mutataliyat, khalas, c'est fini. L'autre, il va dire non, c'est pas adak. Donc nous, on analyse la situation. Vous avez celui qui va nous poser la question. On va analyser la situation. C'est un jeune couple qui vient de se marier depuis 6 mois. Ils n'arrêtent pas de s'embrouiller. C'est pas la peine de le laisser ensemble. Le moufti va dire, bon, c'est bon, on va prendre la fatwa qui dit que c'est fini entre vous. C'est un divorce irrévocable majeur. D'accord ? Un autre cas où un couple vient, le monsieur, il a dérapé, ils se sont embrouillés un petit peu avec sa femme. Ils ont déjà 15 ans de mariage, ils ont 3 enfants qui ont besoin de leur père et de leur maman. Est-ce qu'on va émettre la fatwa qui va les séparer ou au contraire la fatwa qui va leur dire de se remettre ensemble et de leur dire allez, c'est pas grave, c'est une cartouche gaspillée, faites attention, tenez votre langue monsieur et essayez de bien vous entendre avec madame et reprenez une vie commune comme il se doit. Donc l'imam va utiliser ses différents avis religieux pour l'adapter au contexte et que l'islam n'est pas une raille. Bal inna fil amri sa'a. La diversité de ce qui est juste. On sait, on connaît l'histoire des deux compagnons qui ont reçu l'ordre du prophète de prier l'Asr que seulement à tel endroit, qui était Bani Khouraïd dans l'occurrence. L'un, au moment où le soleil s'est couché, allait presque se coucher, l'un d'eux a compris que le prophète voulait de lui qu'il se dépêche, mais il a quand même prié l'Asr sur le chemin. L'autre a dit non, le prophète m'a dit de prier que seulement à destination. Et quand ils sont venus, ils ont présenté leurs problèmes au prophète en arrivant. Le prophète a donné raison aux deux. Il n'a pas dit l'un a tort et l'autre avait raison. Ça montre bien que l'islam, c'est un ressort, c'est un élastique hein, qui donne la possibilité d'avoir plusieurs avis qui peut s'adapter aux différents contextes, aux différentes réalités, aux différents événements, aux différentes personnes qui viennent et qui sont interpellées par une question religieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Et que si l'islam était une barre de fer, qu'on est obligé de tous se plier de la même manière, quelle que soit notre taille, notre couleur, nos cultures, nos origines, notre... Non, l'islam, alhamdoulilah, fait ça. Alhamdoulilah, c'est ça qui fait la beauté, la grandeur de cette religion, c'est sa diversité de points de vue que nous considérons, nous, les jurisconsultes, comme une miséricorde que nous utilisons à bon escient pour être à la fois le plus sage et le plus adapté à la réalité et bien entendu en faisant preuve d'empathie, de miséricorde à l'égard de nos co-religionnaires qui nous consultent. Voilà, est-ce que ça vous convainc ce que je dis?
Ça me convainc.
Ah, bah, écoutez, très bien. Et c'est pour ça qu'il y a l'école Shafi'i, l'école Hanafi, l'école Hanbali, qui sont des écoles. Mais là, j'ai pas le temps ce soir de détailler, mais il y a d'autres explications à donner sur cette question.
J'ai tout à fait compris.
Ah, très bien, écoutez, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Allah ybarik.
Ça nécessiterait une belle émission.
Ah oui, bien sûr, une émission à part entière.
Bien, c'est le moment de jouer. Karima, est-ce que vous aimez jouer au grand quiz du Ramadan?
Oui.
Vous jouez avec moi?
Allez.
Comme ça, vous donnerez les réponses. On accueille Yacine Ilmi. Bonsoir Yacine. Yacine.
Salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yacine Ilmi.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Salam.
Wal Qur'an il hakim. Salam.
Innaka la minal mursalin.
Hafidhak Allah. Ya salam ala al-muqri.
C'est Yacine, oui. Ouais, le fameux Yacine. Notre chouchou. Notre.
Moses.
Nous, on dit. Comment on dit Moziza
Mazouz.
Mazouz. Mazouz. Mahbou.
Mazouz.
Oui, Mazouz. Bien aimé
Yacine.
Allah yahafdou. C'est dommage, il n'est pas là. Bon, c'est pas
grave. Il était avec Macron aujourd'hui. Il a autre chose à faire.
Ah ouais, c'est sûr. Tout le monde l'aime. En haut de la sphère.
Il avait autre chose à faire aujourd'hui. Bon, Yacine, rappelez-nous les règles du jeu, du grand quiz.
Alors, on a deux parties. Donc, soit une famille, deux familles, soit deux personnes. On va leur poser trois questions. Et pour chaque question, on gagne un point. La quatrième question, c'est la question de l'imam. Et celle-là, elle vaut deux points parce que c'est haut la main.
C'est
l'imam,
tu as préparé ta question. High level, bah oui, bien sûr.
C'est the question.
Ouais, déjà, tu ne comprends pas l'énoncé, tu vois.
Donc, dernière chose, pour pouvoir répondre à une question, il faut donner son nom et on vous donne la main. Si une personne répond sans qu'on lui donne la main, à ce moment-là, elle n'aura plus le point, elle ne passera la main à la personne.
Alors ce soir, celui qui remporte la manche repartira avec au choix une TV 4K de 32 pouces ou un aspirateur sans fil.
T'es sérieux ?
Oui.
Bah oui, vous m'avez dit pas de voyage aux Bahamas, donc j'ai changé.
Attends, c'est quoi la récompense ?
Une TV 4K de 32 pouces, ça fait 80 cm et un aspirateur sans fil de marque Singer.
Pour vous aider à gérer.
De chez Mole. De chez notre partenaire Mo le patron.
Eh ben,
voilà, Mo le patron.
Vous aider à gérer votre charge mentale. Voilà.
Vous avez un aspirateur. Voilà. Mais vous pouvez prendre la télé, Karima. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'aspirateur. Et chacun d'entre vous repartirez avec l'emblématique box de l'Aïd de Dard et Délices qui fête ses 10 ans cette année. Alors, nos candidats, nous avons Ismaïl qui est avec nous. Bonsoir, Ismaïl.
Bonsoir.
Salam alaykoum.
Salam alaykoum. Salam alaykoum.
Bon, Ismaïl, tu nous appelles d'où?
De Villers-Saint-Paul.
D'accord.
860-870.
D'accord. Tu as quel âge ?
11 ans.
D'accord. Et qui c'est qui est avec toi et qu'on entend qui souffle derrière ?
Il y a mon père.
Il y a ton père. Et avec ton père, il n'y a que ton père ou il y a d'autres personnes ?
Non, il n'y a que mon père.
Bien. Alors ça, c'est équipe numéro 1, c'est équipe Ismaïl. En face, c'est Sarah qui est avec nous. Sarah, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir.
Coucou Sarah, comment ça va ?
Salam alaikum.
Oui, ça va et vous ?
Ben, ça va bien, merci.
Machallah, Alex, Sarah.
Toi, tu as quel âge, Sarah ?
12 ans.
12 ans. Et tu nous appelles d'où ce soir ?
De Gare-Jégonesse.
Très bien. Et alors, qui c'est qu'il y a dans ton équipe, à toi, ce soir ?
Mon grand frère.
Comment il s'appelle, ton grand frère ?
Souleymane.
Slimane ?
Souleymane.
Souleymane. Souleymane, c'est ça. Très bien. Bien. Donc Souleymane, Sarah et Ismaïl avec son papa qui sont là et qui vont jouer au grand quiz du Ramadan. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui.
Très bien. Alors Yacine, on vous écoute pour la première question.
Alors vous avez bien compris, Ismaïl et Sarah, pour pouvoir répondre, il faut donner votre nom et ensuite on vous donne la parole. C'est clair ?
Oui.
Approchez-vous. Très bien. Alors première question, écoutez bien. On est toujours dans le mois du Coran et la question se réfère au Coran. Combien y a-t-il de sourates dans le Coran ?
Sarah.
Je crois que c'est Sarah qui a dit. Je ne voudrais pas m'avancer.
Alors, dites-le une fois, pas la peine de répéter 15 fois.
Non,
ça ira.
J'aime bien, ça a un petit côté.
Ouais, machallah. Ça ira, Sarah, on a entendu. On a entendu, Sarah. Bismillah, tfadli, c'est quoi la réponse, Sarah ?
114.
Machallah. 114 sourates du Coran. Qui font l'intégralité du Coran. Bonne réponse. Donc ça fait un point pour Sarah.
Non, mais les autres avaient dit Sarah avant.
Ah, elle avait dit Sarah avant ? Attendez, j'ai pas entendu. Yacine, est-ce que tu peux arbitrer parce que je suis peut-être.
Non, c'est Sarah qui a dit la réponse, oui.
Oui, mais c'est, oui. Donc c'est bon.
Bah, qu'est-ce que j'ai dit, moi ? J'ai dit Sarah, elle a un point.
Oui.
Donc c'est bien ça, Sarah. Bravo. Oui, alors, l'autre candidat, il s'appelle comment ?
Ismaïl.
Ismaïl, il faut réagir, Ismaïl. T'es là ?
Oui.
Alors, dès que tu connais la réponse, tu dis Ismaïl. D'accord ?
Tu dis Ismaïl.
Ismaïl. Allez, tu le dis bien fort, on l'entend bien fort. D'accord ? Allez, donc un point pour Sarah. Et pour information, combien y a-t-il de versets dans le Coran ?
Ah bah faut pas le dire, ça peut faire l'objet d'une question.
Non mais elle est trop dure. Non mais ça c'est juste entre nous. Hein. Ça comptera pas un point, ça c'est juste pour info.
Je sais pas combien. Le nombre exact, mais c'est
Des versets, hein.
Donc c'est beaucoup plus que des sourates. Alors
6236.
Il vous en manquait un petit peu ici.
C'est à la fois mettez nous staoutalatine aïe. Non.
Allez, deuxième question, Yacine, s'il vous plaît.
Deuxième question. Comment s'appelle la fille du deuxième calife de l'islam, Omar, qui a épousé le prophète?
Sarah, bravo Sarah, elle est rapide. Hein.
C'est Sarah de Garges-lès-Gonesse, c'est bien ça. Hein.
Ah ouais,
c'est...
elle est de Garges.
Elle est de Garges.
Ah ouais, elle a peut-être un bon
c'est
professeur.
C'est Timmy Cef.
Ah ouais. D'accord.
Garges en force.
Garges en force.
Ah, Garges en force.
Alors, allez. Sarah, la fille de Roman qui a épousé le prophète. Allez.
Alors, c'est qui? Ah, mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Alors là, Garges, là, ça va pas le faire. Là. Ouh.
Alors, là, ça va pas Ismaïl, tu reprends la main.
Ismaïl, c'est à toi de répondre, vas-y. Comment elle s'appelle la femme du prophète? Il a failli la répudier en plus. Et heureusement que son père était là pour la pistonner, pour qu'il se rétracte. Le prophète l'a répudié, il s'est rétracté.
Khadija.
Non. Elle est réputée pour avoir été celle qui a protégé et préservé le Coran.
Alors Sarah reprend la main.
Elle est, c'est elle qui a préservé le Coran. Hafsa. Hafsa, bonne réponse.
C'est Hafsa.
C'est Hafsa.
Et c'est Sarah qui marque un deuxième point.
Alors, bravo.
Yacine, on y va pour la troisième question.
Alors, troisième question, écoutez bien. De qui parle-t-on en disant Ibn Maryam?
Ismaïl.
Non, on a entendu Ismaïl en premier. Allez, Ismaïl, vas-y, c'est qui est Ibn Maryam?
Isa,
alayhi salam, Ibn Maryam.
Et Ismaïl marque son premier point. Alors, rien n'est joué, puisque finalement, vous savez que la question de l'imam vaut 2 points. Ismaïl, si tu réponds à cette question, tu passes devant. C'est toi qui remporteras la manche. Et puis Sarah, ben là, tu seras une grande triomphatrice. Alors, est-ce que vous êtes bien concentré pour écouter la question de l'imam?
Oui.
Alors, vous êtes là, ok?
Oui.
Bon,
oui.
Parce que tout à l'heure, on a entendu une dame qui posait la question sur les différentes écoles. Je vais faire une définition d'un personnage. Et dès que vous avez la réponse, moi, je vais donner plusieurs indices. Je vais donner des indices. Et celle qui a la réponse, vous pouvez couper vous pouvez couper ma question et donner votre nom pour répondre, d'accord? Je suis né en l'an 150 de l'Hégire. Je suis mort en 204. J'étais l'élève de l'imam Malik. Et j'ai fondé une école juridique en Égypte en l'an 199 jusqu'à l'an 204. Je suis mort en l'an 204. Je suis l'élève de l'imam Malik. Je m'appelle Mohammed ibn Idris. Mais je suis connu sous le nom de...
Est-ce que je peux répondre?
Alors Yacine, vous ne jouez pas, vous.
Vous n'aurez pas de télé. Il est aujourd'hui le maître juridique... Ah, Sarah, vas-y.
Attendez,
il est le maître juridique de tous les pays musulmans qui se trouvent à l'est de l'Afrique et de l'Indonésie et de la Malaisie. Mmh. Comment il s'appelle?
Ash-Shafi'i.
Bonne réponse.
Excellent.
Ah ouais, surtout que la question a été dure.
On l'avait dit, hein, Garges en force.
Bravo. Donc ça lui fait combien?
4 points pour Sarah qui reviendra.
Il y a eu un 4-1, c'est quand même pas mal.
4-1, elle a sauvé l'honneur.
Ça fait un petit Real PSG, on va dire.
Voilà.
Un
petit
Real PSG.
Bravo les enfants.
Ça veut dire que Ismaïl, c'est Mbappé, c'est ça?
Hein?
C'est toi Mbappé, Ismaïl?
Non.
Ou là, Messi, t'es Messi, Mbappé ou bien Neymar?
Il y avait Mbappé, et puis en face, il est tombé quand même sur Benzema.
Sur Benzema, voilà, c'est ça. C'est Sarah.
Alors Sarah, c'est toi qui triomphe ce soir et tu repars avec au choix une télévision 4K de 32 pouces ou un aspirateur sans fil. Qu'est-ce que tu choisis?
La télé.
De toute façon, tu auras encore le choix, l'antenne de faire.
Tu as le choix, voilà. Tu peux réfléchir, en tout cas. C'est grâce à notre partenaire, Mo le patron.
Voilà.
Youssef.
Et on l'invite aussi, elle et ses parents, de passer à la mosquée Hamza à Garges-lès-Gonesse. Ils auront aussi un cadeau de la part de la mosquée Hamza. Vu qu'ils sont de Garges. Voilà.
Voilà. Vous venez voir Cheikh Youssef, il va vous faire un cadeau.
Voilà, et Ismaïl et Sarah, vous repartez tous les deux avec une Hidebox spéciale offerte par Dard et Délices, la Hidebox, vous savez.
La Hidebox, c'est une boîte spéciale avec plein de bonbons pour l'Aïd.
Excusez-moi, Cheikh Youssef?
Oui.
Ouais, Cheikh Youssef.
Vous connaissez Sarah?
Vous connaissez Sarah?
C'est la famille Boulanoir.
Mashallah, la femme Benoît, je connais bien toute la famille, mashallah, excellent.
Ah, mais il y a des pistolets là, là. C'est pas sérieux, ils ont un prof qui cartonne là.
On a eu un bon prof en plus, mashallah.
Bien, en tout cas, bravo à tous les deux. Demain, une autre manche du grand quiz.
Mais ils gagnent quand même une belle hitbox, hein, avec plein de bonbons dedans.
Mais tous les deux, ils repartent avec leur hitbox, donc spécial VIP en plus.
Pendant Ramadan, on donne un cadeau à tout le monde. Beurre FM est généreux avec tout le monde.
Bravo pour vos efforts.
Voilà, et dans un instant, ça sera le Coran en français, en arabe. Et je vous rappelle que l'ADN, c'est en direct si vous habitez Paris à 20h54.
Ramadan & Co revient dans un instant. Les grandes signatures du Ramadan. Le Coran et sa traduction en français. Ramou Vision.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد.
Ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est l'égarement profond. Ils invoquent ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon.
Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Inna Allah yaf'alu ma yurid.
Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah les fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, car Allah fait certes ce qu'il veut.
Man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi ad-dunya wal akhirati falyamdud bi sababin ila as-samaa'i thumma liyaqta' falyanzur hal yudhiban kayduhu ma yaghiz.
Celui qui pense qu'Allah ne le secourra pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage.
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد.
C'est ainsi que nous le fîmes descendre, le Coran, en versets clairs, et qu'Allah guide qui il veut.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
Certes, ceux qui ont cru, les Juifs, les Sabéens, les adorateurs des étoiles, les Nazaréens, les mages, et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toutes choses.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن الْكَرِيمِ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.
N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux ainsi que beaucoup de gens? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment. Et quiconque Allah avilie n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut.
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante. Qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira: goûtez au châtiment de la fournaise.
Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir.
Certes, Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or et aussi de perles, et leurs vêtements y seront de soie.
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
Ils ont été guidés vers la bonne parole, et ils ont été guidés vers le chemin du digne des louanges.
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ.
Mais ceux qui mécroient et qui obstruent le sentier d'Allah et celui de la mosquée sacrée que nous avons établi pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage, quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux.
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ.
Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant: ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan sur beurrefm.net. Beurre FM, le Ramadan, 30 jours avec vous. Beurre FM, 19h, 21h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun.
Voilà, et avec nous sur ce plateau, Karima Chadibaou, qui est avec nous, qu'on retrouve tous les jours à 12h20 pour les méditations du mois de Ramadan. Karima.
Absolument, un moment de reconnexion à soi.
Voilà, ça fait du bien, hein, c'est l'heure du déjeuner. De toute façon, pour ceux qui jeûnent, voilà. C'est là un moment pour, juste pour vous. Youssef Hachmaoui est avec nous, là, ce soir. Et l'imam Abdelali s'échauffe la voix pour un... voilà, en direct à 20h54 et nous allons manger votre cuisine ce soir, Imam Abdelali.
Alors c'est juste un tagine. Par contre, la harira, c'est madame.
D'accord.
Faut être juste.
Bon,
il manque un petit qualificatif au tagine, je crois.
C'est quoi le qualificatif? Tagine marocain?
Non, je crois qu'il y a un bon tagine ce soir.
Un bon tagine, Charles.
Un bon tagine marocain, c'est le oud. Voilà, l'huile.
De toute façon, tagine marocain, il y a deux types de tagine avec l'huile, soit zit l'oud, soit zit argan.
Voilà, exactement.
Zit argan aussi, ils le font avec
zafran.
Ah ben, zafran, c'est obligatoire. Sans zafran, c'est même pas là, c'est même le côté. C'est le secret du tagine, c'est le zafran. Le safran iranien ou afghan.
Bien. Karima, numéro entre 1 et 6. Vous avez beaucoup de responsabilités ce soir.
Alors, oulala, j'ai de la pression là, entre 1 et 6, 4.
Le numéro 4. Allô, bonsoir. Est-ce que vous êtes là?
Salam alaikum.
Oui, allô.
Oui, allô. Ah, bravo. Comment elle s'appelle?
Yasmine.
Yasmine, mashallah. Mabrouk alaik, Yasmine.
Fahid.
Tu es le VIA de ce jour, de ce beau jour, de ce jeudi.
Oui, on est jeudi. La very importante auditrice. Hein.
Voilà, c'est ça. Allahumma barik. Laylat al-Jumu'ah en plus, j'ai khriba fi Ramadan.
Et là une nuit, la première nuit des nuits impaires.
Voilà, et c'est la première de vendredi, de décade de Ramadan, dernière décade du Ramadan. Donc makaj ahsan baraka, chouf. La preuve c'est que tu as déjà un beau cadeau. Moi je laisse parler Philippe, c'est
bien. Voilà, vous repartirez avec un coffret de parfums et un assortiment de 3 parfums d'ambiance qui vous sont offerts par la maison Maïssa Parfums. D'une valeur de 315 euros. Voilà.
Mmh. Ça a l'air de sentir bon.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez un message à passer à des gens que vous aimez ce soir, Yasmine?
Toute ma famille, le
Allah ma berk.
Bon, vous êtes avec qui ce soir, Yasmine?
Avec mes parents et mon père.
D'accord, ils s'appellent comment vos parents? Vous pouvez les citer par leur prénom?
Asya et Zawad.
D'accord. Vous avez quel âge, Yasmine?
Moi, j'ai
13
ans.
Ah oui, 13 ans, c'est une jeune fille. Voilà, ouais, c'est
bien.
Une
fille. Est-ce que tu sais ce que maman a préparé ou papa a préparé ce soir? Ou toi-même, peut-être?
Maman, elle a préparé de la chalva et des bourreks avec de la salade, des frites, de la viande.
C'est bon, tout ça.
Belle table.
Qu'est-ce qu'il y a au dessert?
De la chémia et plein de gâteaux.
Chémia.
Plein.
Relbelouz.
Il y a Tarawih après.
Nous aussi, je crois, on en a ce soir.
On a Relbelouz ce soir.
On a du Relbelouz.
Relbelouz. Bon, je vous laisse vous échauffer. Vous avez la dent dans quelques minutes. Merci, Yasmine, d'avoir terminé la journée avec nous.
Allah yahafdak, Yasmine.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 19h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.